Autre chapitre dans l'actualité, cette exclusivité BFM TV. On a réussi, Maxime Brandstetter et Clément Granon ont réussi plus précisément à recueillir le témoignage de la randonneuse qui a retrouvé le crâne du petit Émile. On est avec vous, Maxime Brandstetter. Vous êtes au Auvernais, le hameau où le petit Émile a disparu le 8 juillet dernier. On va l'appeler Manon, cette randonneuse. Elle souhaite conserver l'anonymat. On a malgré tout des éléments concernant son profil. Vous qui l'avez rencontré, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette promeneuse qui a donc retrouvé le crâne du petit garçon ?
Bien, je peux vous dire qu'elle a une soixantaine d'années. C'est une retraitée qui vit seule. Elle est veuve, elle a de la famille, des enfants. Elle assume vivre de façon solitaire, elle le dit. Elle vit dans ses livres. Elle aime aussi beaucoup la région dans laquelle elle se trouve. Elle en profite d'ailleurs. Elle est sportive, assez en forme. Elle fait des balades parfois très longues, parfois très haut. Elle est aussi très croyante. Elle a la foi. Dieu est revenu plusieurs fois dans notre conversation. Et c'est donc elle, la randonneuse ou la promeneuse, qui a trouvé le crâne du petit Émile.
Ce jour du 30 mars, elle décide donc d'aller se promener. Elle hésite d'ailleurs au départ, Maxime, puisque les conditions météo sont pas tout à fait là, mais elle y va finalement.
Oui, elle nous dit que c'était un temps à rester sous la couette et donc elle hésite et finalement elle se décide à y aller. Avec le recul, on se dit c'est elle aurait pu ne jamais le trouver si elle n'était pas décidée ce jour-là, mais voilà, elle décide, elle part. Elle part toujours sans montre et sans téléphone portable parce que voilà, elle aime comme ça se promener de manière hors du temps. Elle sait qu'elle part à peu près vers midi parce qu'elle entend le clocher sonner. Elle choisit le chemin, il y en a beaucoup, hein, des très jolis chemins dans cette région. Elle en choisit un qu'elle n'a pas fait depuis un mois et demi, nous dit-elle, un chemin fréquentée en été, mais pas trop à cette saison. Elle décide de marcher dessus. Elle ne sait pas au bout de combien de temps. Tout d'un coup, elle le voit là, au milieu du chemin. Elle dit qu'elle ne pouvait pas le rater. Elle voit le crâne blanc, dit-elle, et tout propre du petit Émile. Là, immédiatement, elle sait qu'il s'agit du crâne du petit Émile et elle fond en larmes.
Et elle décide donc un peu plus tard d'appeler les gendarmes. Maxime Brandstetter, vous restez avec nous. On va en parler avec nos invités ce soir. Laurent Valdigui, journaliste d'investigation au magazine Marianne. Bonsoir à vous, Laurent. Gilles Rex, bonsoir à vous, ancien major à la police technique et scientifique de la police judiciaire de Paris. Bonsoir. On est également avec Jacques Pradel. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Journaliste spécialiste des faits divers, vous êtes co-auteur du livre « Police technique et scientifique, le choix du futur ». Aux éditions du Rocher. On va revenir vers vous dans un instant. Mais voilà, je rappelle, Maxime Brandstetter, c'est vous qui avez recueilli ce témoignage avec Clément Granon. C'est vrai qu'une fois qu'elle contacte les gendarmes, s'en suivent de longues heures où elle est auditionnée, 9 heures d'audition, où les gendarmes l'amènent également sur les lieux de la découverte. Ça a été particulièrement éprouvant pour elle.
Elle nous dit que non, pas forcément. Elle a répondu aux questions. Elle dit qu'ils faisaient leur travail, c'est normal. Même si elle nous souligne quand même qu'elle était assez épuisée. Hein. Il faut imaginer que déjà, voilà, elle est partie à 12h, revenue à 14h. C'est une femme d'une soixantaine d'années qui avait quand même fait 2 heures de marche. Elle a dû y retourner, donc refaire la marche à pied avec les gendarmes. Et puis elle est rentrée chez elle seulement à minuit. Donc oui, elle était effectivement fatiguée. D'autant plus que s'en est suivie le lendemain une perquisition. Elle a été surprise, mais elle a été perquisitionnée avec des gendarmes en présence d'officiers de police judiciaire qui ont pris des photos, qui ont récupéré son matériel électronique pour l'analyser. Ils lui ont seulement rendu quelques jours plus tard.
Merci beaucoup, Maxime Brandstetter. On a presque l'impression, Laurent Valdigui, que c'est un peu le fruit du hasard. Elle raconte que ce jour-là, elle avait un petit peu la flemme. Elle qui adore aller faire de grandes balades, c'est une habituée de la région. Voilà, c'était un temps à rester sous la couette avec beaucoup de vent. Et elle finit par se décider donc de partir sans montre, sans téléphone portable.
Oui, pas seulement du hasard, de la chance, je dis. Voir du destin, voir la main de Dieu, si vous croyez en Dieu. Parce qu'en réalité, dans cette espèce d'océan de malchance qui est cette affaire depuis le début, depuis 9 mois, le facteur chance, il est là. Que cette randonneuse, un jour de pluie, un jour de vent, un jour où personne ne met le nez dehors, comme vous disiez, comme elle l'a dit à Maxime, se promène sur ce chemin où elle n'est pas allée depuis longtemps. Un chemin d'été plus que d'hiver, c'est glissant. Et puis là, elle tombe nez à nez avec... elle le comprend tout de suite avec le petit Émile. Puisque d'entrée, quand elle voit cette chose blanche, c'est un crâne, c'est très, très, très... on voit tout de suite que c'est un crâne, c'est un objet très visible. Elle voit cette chose blanche sur le milieu du chemin, elle sait que c'est Émile, et elle a la présence d'esprit parce qu'elle a peur que ça disparaisse à nouveau. Mmh. En quoi elle a raison, il y a du vent, de la pluie, des animaux. Émile n'est pas mort à cet endroit-là. Le crâne est arrivé là. Puisque à cet endroit-là, des dizaines, des centaines peut-être de personnes sont passées l'été dernier.
Il est posé au milieu du chemin.
Au milieu du chemin. Il a atterri au milieu du chemin, certainement poussé là par des animaux, roulant. Et elle comprend qu'il faut le ramener. Et comme elle l'a raconté à Maxime, elle a deux sacs plastiques, elle va le mettre dans un sac plastique et ça lui brûle presque les doigts. Elle rentre en courant chez elle pour annoncer la nouvelle. Elle pense aux parents d'Émile, évidemment. On est le samedi de Pâques, elle est très croyante. Donc là encore, c'est un facteur chance incroyable. Les gendarmes la prennent au sérieux tout de suite. Mm-hmm. Puisqu'il y a deux hélicoptères qui vont être affrétés dans la nuit pour aller du Haut-Vernay. Vous voyez où c'est le Haut-Vernay, hein?
Dans les Alpes de Haute-Provence,
à Pontoise, à l'IRCGN, pour faire en urgence les vérifications ADN.
Jacques Pradel, je disais, vous êtes avec nous, vous avez pu entendre le témoignage récolté par nos équipes. Que vous inspire-t-il déjà ce témoignage, ces mots de cette randonneuse qu'on appelle Manon?
Vous savez, moi je partage totalement ce que vient de dire Laurent Valdiguier, la chance, le hasard, la providence, appelons ça selon nos convictions, il faut trouver le bon mot, mais les enquêteurs qu'on fréquente parfois disent d'ailleurs que la chance fait partie du talent dans le métier de policier. Et là, je pense que je suis persuadé, comme tout le monde, que c'est une avancée. C'est considérable. Tout a basculé avec cette découverte faite au hasard d'une balade qui ne devait peut-être même pas se faire. Et on est en train de passer des hypothèses aux certitudes. Alors, on n'a pas beaucoup de certitudes, mais on sait malheureusement maintenant que l'enfant est décédé dans cette zone-là, et même si effectivement on est tombé vraisemblablement plutôt sur ce que j'appellerais un dépôt de vêtements, de ce crâne, quelques ossements qui ont vraisemblablement été apportés là par la nature ou par les animaux. Alors peut-être il reste encore l'hypothèse que quelqu'un soit venu déposer la dépouille, mais franchement, on y croit de moins en moins, et tous les éléments maintenant, les clés, sont du côté de la police scientifique. C'est-à-dire que maintenant, il faut analyser ce qu'on a pu trouver, espérer qu'on va retrouver d'autres éléments du corps de ce petit garçon, ne serait-ce que pour la famille d'ailleurs, pour leur rendre peut-être une dépouille pour qu'ils puissent faire leur deuil, mais également avoir pour les enquêteurs, pour l'IRCGN, de quoi rechercher des traces, faire parler ces ossements, en espérant qu'on va pouvoir s'approcher le plus possible du scénario de ce qui s'est vraiment passé.
Vous avez l'air de dire, Jacques Pradel, que le scénario de l'accident est le plus probable, si je vous comprends bien. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Comment est-ce que la découverte de ces ossements vous met plus sur cette piste-là?
C'est-à-dire que, en fait, l'expérience nous montre que les experts, grâce au progrès de la science, sont maintenant capables d'obtenir des informations à partir de traces infimes. Alors, s'agissant du crâne de cet enfant, se pose la question, par l'analyse, de trouver qu'est-ce qui est antérieur à la mort de l'enfant et qu'est-ce qui est postérieur. C'est le fameux antémortem et postmortem. Et pour l'instant, tous les éléments qui semblent avoir été recueillis, puisque moi je n'ai pas d'informations particulières, je suis comme vous, j'entends ce que le procureur de la République veut bien nous dire de l'avancée des recherches, mais pour l'instant, j'ai cru comprendre que l'analyse, l'examen du crâne de ce petit garçon ne montre pas de traces antémortem qui pourraient justifier une agression, un coup. Enfin, en tout cas, sur la base de ce que nous avons à notre disposition pour l'instant, tout ramène effectivement pour l'instant vers l'hypothèse de l'accident. Alors maintenant, il va falloir expliquer tout cela. Pourquoi les chiens se sont arrêtés à la fontaine? Pourquoi? Comment cet enfant a trouvé le chemin dans cette zone-là? Et je parlais tout à l'heure de dépôt avec le général Daoust, qui est le co-auteur du livre que vous avez cité tout à l'heure. Il faut retrouver ce que Daoust appelle le point zéro, c'est-à-dire essayer de retrouver l'endroit où cet enfant est décédé. Alors, soit à la suite d'une chute, soit à la suite, tout simplement, s'étant perdu, peut-être, est-ce qu'il a été déshydraté, est-ce qu'il est mort dans ce ruisseau dont on parle, et qui vraisemblablement, avec les phénomènes dont on parle beaucoup, de les phénomènes méditerranéens, vous savez, il y a les pluies, mais torrentielles qui sont tombées dans cette zone. Et il serait pas étonnant à ce moment-là que la nature, les eaux, bien sûr, mais aussi le vent, peut-être les animaux sauvages, aient pu disperser finalement les restes de cet enfant. Mais pour l'instant, par rapport à ce que l'on sait, en tout cas, il n'y aurait pas de traces sur le crâne, en tout cas, qui laisse présager une agression ou un acte criminel. Mais maintenant, évidemment, il faut continuer à chercher. Je pense qu'il va falloir, mais ça, les experts de l'IRCGN savent le faire, ils l'ont fait dans d'autres affaires criminelles, il va falloir tamiser le sol, essayer de retrouver le moindre petit bout d'ossement qui pourrait parler, qui provient peut-être de telle ou telle partie du corps, qui pourrait donner des explications ou en tout cas donner un éclairage sur ce qui a pu se passer. Parce que, évidemment, le coup d'une agression sur le crâne n'est pas la seule façon dont un enfant peut décéder. Il peut avoir été étranglé, il peut avoir été... Enfin, bon, là, on est ramené aux hypothèses, si vous voulez. Mais là, pour l'instant, il faut se raccrocher à ce que nous savons de tangible, car sans trace exploitable et analysable, la police scientifique ne peut rien. Donc il faut trouver un maximum de traces et c'est un travail qui va durer. Je crois que la zone est gelée jusqu'au 15 avril.
Jusqu'à la mi-avril.
Et je pense que jusqu'à la mi-avril. Donc jusque-là, je pense que la centaine qui se trouve toujours sur place et les spécialistes des recherches en montagne qui viennent de la Légion étrangère, je crois qu'ils ont rejoint l'équipe sur place, peuvent peut-être contribuer à trouver à la fois d'autres ossements, il faut l'espérer, et peut-être aussi le fameux point zéro dont on parle, parce que ça n'est qu'à partir de là qu'on pourra bâtir des hypothèses fondées sur une réalité.
Alors, on va revenir sur les différents points que vous avez évoqués. Juste avant, on va retourner voir Maxime Brandstetter en direct du Haut-Vernay. C'est vous qui avez recueilli ce témoignage. Je le rappelle, j'aimerais qu'on revienne à la découverte de ce crâne. Elle explique, il était blanc, il était tout propre, il n'y avait que les dents du haut. C'est ce que vous a confié cette randonneuse. Et elle vous raconte ensuite, et ça a fait beaucoup parler au moment de la découverte, pourquoi elle ne l'a pas laissé là, ce crâne.
Oui, c'est vrai que vous avez raison de le souligner. Beaucoup de personnes se sont étonnées de dire, mais voilà, une scène de crime, ça paraît évident à presque tout le monde qu'il ne faut surtout pas y toucher. Il faut appeler les enquêteurs et laisser faire. Mais comme on l'a expliqué, elle est partie sans montre et sans téléphone portable. Elle se retrouve donc face au crâne qu'elle est persuadée d'être, et la suite lui donnera raison, face au crâne du petit Émile. Et elle se dit, je n'ai pas moyen de joindre les enquêteurs. Et il y a un autre élément, c'est qu'on l'a dit, elle connaît bien la montagne, elle la parcourt beaucoup. Elle nous a dit, vous savez, la montagne, particulièrement un jour comme ça, où il y a beaucoup de vent, où il y a des éboulements, je sais que si je laisse le crâne, on ne le retrouvera pas. Donc elle se dit qu'elle n'a pas le choix, même si elle sait qu'il ne faut pas, il faut qu'elle puisse prendre ce crâne pour le ramener chez elle et pour appeler les gendarmes. Elle a quand même la présence d'esprit d'abord de noter un marqueur, puisqu'elle identifie un sapin en disant « voilà un sapin couché, je sais, je saurais reconnaître l'endroit où je l'ai trouvé pour l'indiquer aux gendarmes ». Et le crâne, elle ne veut pas le toucher pour ne pas l'altérer, pour ne pas mettre son ADN. Et heureusement, elle a deux sacs plastiques pour elle. Alors on peut se demander, mais pourquoi elle a deux sacs plastiques ? Bien parce qu'elle a l'habitude de monter assez haut pour parfois aller dans la neige. Et là, elle utilise des sacs plastiques pour emballer ses pieds et éviter qu'il soit touché par l'humidité. Et bien, elle a utilisé ces deux sacs plastiques. Elle nous a mimé comment elle a fait difficilement, mais méthodiquement, pour essayer de récupérer le crâne. Enfin, le récupérer en sac plastique à bout de bras, redescendre en courant et appeler les gendarmes. La suite, on vous l'a raconté.
Merci beaucoup, Maxime Brandstetter, avec Clément Granon. Donc, elle avait deux sacs plastiques, puisqu'elle avait ses sacs plastiques pour protéger ses chaussures, oui, en cas de pluie. Et c'est à l'aide de ces deux sacs qu'elle ramène ce crâne d'enfant à bout de bras, d'ailleurs, parce qu'elle n'ose pas le toucher, évidemment.
Ben oui, ça lui brûle un peu les doigts, et puis elle sait qu'il faut aller vite. Elle a pris le parti de ramener ce crâne parce qu'elle a compris que la nature le rendait et qu'il fallait le prendre. C'est ce que dit Maxime, qui a longuement parlé avec elle. Elle a compris qu'il fallait qu'elle reparte de la forêt avec ce crâne. Et c'est vrai que c'est un facteur chance, un concours de circonstances incroyables, comme on l'a dit. Et c'est ce qui fait que cette enquête a un nouveau tour depuis quelques jours, parce qu'on sait qu'Émile a trouvé la mort dans cette forêt.
Gilles Rex, je le rappelle, vous êtes ancien major à la police technique et scientifique de la police judiciaire de Paris. Vous comprenez ce geste de la randonneuse, il a été beaucoup critiqué, on s'est dit mais elle a pollué une scène de crime, on aurait peut-être pu en savoir plus. Et d'autres ont pu dire, ben voilà, elle a fait ce qu'elle a pu. Votre regard en tant qu'ancien de la police scientifique.
Bon, alors déjà, quand on parle de scène de crime, il faut rester prudent, parce que c'est peut-être simplement une scène d'accident. Voilà. Et effectivement, un os comme ça, un crâne retrouvé en plein milieu d'un chemin, moi-même, je pense que je ne l'aurais pas laissé comme ça, à la vue comme ça, éventuellement non protégé.
Elle disait le sirocco soufflait très fort.
Oui, voilà. Donc ça se comprend. Moi, je comprends ce geste-là. Je pense que personnellement, j'aurais pu prendre ce crâne-là, le sortir du chemin, mais le laisser avec un repère comme elle a fait, mais le laisser sur place. Moi, je ne l'aurais pas ramené, mais bon, c'est la déformation professionnelle, voilà, puisque j'aurais pensé pouvoir trouver tout un tas d'autres choses autour avec les collègues qui viendraient sur place. Maintenant, si vous voulez, il faut déjà dans un premier temps être certain qu'un enfant de 2 ans et demi est quand même capable de prendre de mauvaises décisions, d'échapper à la surveillance de ses parents et d'aller essayer d'explorer le monde dangereux qui l'entoure. Pour aller par rapport jusqu'aux vêtements entre le village, je crois, et les vêtements, il y a 1 kilomètre en ligne droite qui passe par des terrains très accidentés et très difficiles et un peu plus de 2 kilomètres si on emprunte le chemin. Là, maintenant, à partir du moment où on a trouvé ce point zéro, comme dit Jacques Pradel, ou quasiment, on est sûr qu'il y a puisque les vêtements sont à 150 mètres à peu près du crâne. Donc là, les enquêteurs vont garder leur bon sens, comme n'importe qui. Et ils vont explorer les chemins les plus directs qui vont de la maison jusqu'ici. Et ils vont effectivement tamiser, rechercher partout. Le corps humain est composé de plus de 200 os, quand on est adulte. Et pour un enfant, c'est encore pire, puisqu'il y en a 350 quand il naît. Ce sont des os mous qui vont se souder les uns avec les autres, à partir de l'âge de 3 ans.
Et qui sont très petits.
Qui sont très petits. Donc, pour le petit Émile, il doit y en avoir encore beaucoup. Peut-être enfouis, peut-être déplacés par les éléments ou les animaux, ça, on ne sait pas.
Et jeudi, je le rappelle d'ailleurs, on a appris hier qu'un bout d'os a aussi été retrouvé, un bout d'os qui appartient au petit Émile. Votre regard
peut être dévoré complètement, détruit
par des animaux.
Très loin.
Que dire de ces propos quand elle dit « le crâne, je l'ai trouvé, il était blanc, tout propre, et il n'y avait que les dents du haut ». Comment interpréter ça?
Ça, c'est assez classique, hein, de retrouver des os blanchis comme ça, s'ils ont passé à travers les éléments tout l'hiver dehors, hein, depuis le mois de juillet jusqu'à maintenant, c'est tout à fait possible. Sur les os, et le crâne en particulier, il y a très peu de chair, hein, d'éléments mous, et donc, effectivement, avec le temps, avec la prédation des insectes, hein, ça c'est normal que le crâne ait été blanchi et nettoyé, si on peut dire.
Mmh. Alors, elle raconte donc qu'elle ramène ce crâne à l'aide des deux sacs plastiques dont elle disposait à ce moment-là. Elle arrive chez elle, elle laisse le crâne à l'extérieur sur la terrasse. Elle le dit, le rentrer dans la maison c'est inconcevable. Elle appelle les gendarmes. Et elle leur dit qu'elle a trouvé le crâne. Ils me répondent, on arrive, on vous rappelle, restez où vous êtes. Elle leur donne rendez-vous au bout de sa rue, parce qu'il y a aussi le côté village, petit hameau, où évidemment elle n'a pas envie que tout le monde sache que c'est elle qui a retrouvé ce crâne. Et alors, elle est auditionnée pendant 9 heures. Jacques Pradel, vous êtes toujours avec nous. Audition de 9 heures, suivie d'une perquisition le lendemain. Ça veut dire qu'elle a été considérée à ce moment-là comme suspecte? C'est la procédure habituelle?
Non, pas forcément. Je pense que les gendarmes ont fait ce que tous les enquêteurs auraient fait. On a une femme d'abord qui arrive effectivement dans les circonstances que vous avez rappelées, qui a l'air d'être de bonne foi, qui est certainement de bonne foi, ils ont passé quand même 9 heures. C'est long, hein, 9 heures, pour essayer de comprendre qui elle était, dans quelles circonstances elle avait choisi ce chemin-là plutôt qu'un autre, etc. Donc, il faut vraiment très méticuleusement, à ce moment-là, interroger cette femme sur ce qu'elle a peut-être vu sans le remarquer spécifiquement au cours de son périple sur ce chemin avant de trouver le crâne. Parce que dans la tête des enquêteurs, il y a aussi certainement la question de savoir, de comprendre, de reconstituer le chemin qu'a pu prendre cet enfant. Et peut-être a-t-il laissé des traces en chemin. Donc je pense que en amont et en aval de l'endroit où on a trouvé les ossements et les vêtements, je reviendrai dans un petit instant sur les vêtements, parce que je pense que les vêtements peuvent aussi peut-être apporter des informations aux enquêteurs. Mais en amont et en aval, c'est pour trouver à la fois ce fameux point zéro, bien sûr, mais aussi peut-être pour trouver d'autres éléments qui permettraient d'avoir la certitude que l'enfant est bien passé par là. La perquisition du lendemain me paraît tout à fait logique. Je pense que, moi, si je me mets dans la peau des enquêteurs, il vaut mieux fermer définitivement, comme ils disent, cette porte-là. Même si on n'a pas de soupçon particulier, cette femme n'a pas été mise à l'issue de cette perquisition et elle n'a pas été en garde à vue. Elle a été auditionnée. Donc librement, elle est rentrée chez elle librement à minuit. Moi, je pense que les enquêteurs ont fait absolument le travail qu'ils devaient faire, voilà, et qu'il n'y a pas à s'étonner, il n'y a pas à considérer que ils l'ont forcément soupçonné d'avoir été partie prenante d'un acte criminel, quoi. Je pense pas. Enfin voilà, je pense qu'on a la réponse maintenant, a posteriori.
Je vais dire peut-être Marion Ménage sur le plateau, avocate pénaliste à Pontoise, 9 heures d'audition, perquisition. Qu'ont-ils cherché à savoir? Que lui ont-ils demandé? Comment ça s'est passé?
Alors, ce qu'ils lui ont demandé, je n'en sais rien, mais
la procédure
probablement
habituelle.
À vérifier simplement les déclarations. C'est-à-dire que cette dame indique qu'elle est partie sans téléphone, sans montre. Elle pense se repérer sur les horaires, par exemple, avec le clocher de l'église. Simplement ça, ça peut expliquer la perquisition, qu'on ait besoin de récupérer le téléphone, parce que bah, si elle a passé un coup de fil juste avant de sortir de chez elle, ça permet d'avoir un élément qui vient corroborer ce qu'elle dit, ça permet d'avoir un élément matériel qui vient dater les choses. Et donc, c'est le premier élément extrêmement important dans cette enquête qu'on trouve depuis des mois. Donc, c'est évident que tout ce qui l'entoure doit être vérifié, recoupé, précisé pour essayer d'aller au plus près de la vérité. Et cette dame, c'est ce qu'on a de plus important depuis le début de cette enquête quasiment. Donc, évidemment, que tout ce qu'elle a pu dire, le moindre détail, était important et devait être recoupé et vérifié.
Alors, on va accueillir Lisa Hadef sur le plateau. Lisa, vous vous êtes penchée sur le papier de Laurent Valdiguet, ici présent sur le plateau. Un reportage qui paraîtra demain dans le journal Marianne. Les enquêteurs qui voient un petit peu plus clair, Lisa, sur l'itinéraire possiblement emprunté par le petit Émile et qui disent, ils vous ont confié être... dépité d'être potentiellement passé à côté du petit garçon.
C'est ça, regardez, selon un haut gradé de la gendarmerie, les équipes chargées de l'enquête sur la disparition d'Émile s'en veulent et n'ont pas le moral. C'est quand même un choc de se dire qu'on a pu passer à côté. Un ancien gendarme est aussi dur en ces termes quand il évoque le périmètre où ont été retrouvés les ossements d'Émile. On a été infoutus de trouver si près du village. Quand on reprend les propos du maire du Vernet, Émile quitte la maison de ses grands-parents vers 17h. Il va jusqu'au lavoir, là où il y a les fameuses cages à lapins qu'il affectionne et devant lesquels il se promenait souvent. C'est à cet endroit que les chiens ont marqué pour la dernière fois. Laurent Valdiguet, je veux bien que vous me rejoigniez, s'il vous plaît. Parce qu'après cette étape de la fontaine, du lavoir, le maire du Vernet explique qu'Émile aurait ensuite quitté le Haut-Vernet par le GR69. C'est à partir de cet itinéraire qu'on peut retracer le possible trajet d'Émile. Grâce à tout ce qu'on sait à ce stade, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on peut retracer son potentiel trajet?
Alors sur la Catigène, on voit bien, là c'est la fontaine. Là, les chiens marquent. Il y a un GR69 qui est en fait une route qui continue. C'est une route empruntable en 4x4. Les gens du Haut-Vernet peuvent rejoindre le village par cette route en 4x4. Et il y a très vite une patte d'oie, à peu près à un quart d'heure. Tout se joue dans ce petit périmètre. Si Émile est allé tout seul à l'endroit où on a, dans la zone de recherche, où son crâne et ses vêtements ont été retrouvés. Si Émile se rend là-bas tout seul, tout se passe dans ce petit périmètre. Ce petit périmètre, ça fait un quart d'heure à pied, dit le maire du Haut-Vernet, François Balic. Et là, personne ne l'a vu. Mais surtout, aucun chien n'a vu Émile. Aucun chien n'a suivi Émile depuis la fontaine sur ce GR69.
Les chiens ont marqué pour la dernière fois.
Voilà. Alors après, une fois là, il peut aller par le gué là, en bas. Les gens n'y croient pas. François Balic dit, dès le soir même, on était nombreux à être au gué. C'est un gué, c'est effectivement un ruisseau, un enfant peut s'y noyer. Mais il y avait beaucoup de monde. En revanche, il y a deux chemins là, il y a deux petits sentiers, un plus long que l'autre, où Émile a pu vouloir rejoindre, vous savez, la fameuse cabane où il était le matin. Il a fait toute une il a fait tout un itinéraire en forêt pour trouver éventuellement la mort tout seul par accident. Hein, c'est l'hypothèse privilégiée à ce stade. Mais alors tout ça, dans tous les cas de figure, vous pouvez retourner dans tous les sens l'itinéraire. Pourquoi les chiens se sont arrêtés à la fontaine et ne l'ont pas pisté le dimanche matin, le samedi soir et le dimanche matin, jusqu'au moins à la patte d'oie?
Je rappelle que toutes ces hypothèses sont celles qu'on entend si jamais Émile était tout seul et qu'il a fait la route tout seul. Est-ce qu'il y a une différence marquante entre ces différents itinéraires, ces différents trajets justement? Là, on a une route qui est empruntée par les 4x4. Est-ce qu'il y a d'autres choses significatives à savoir?
La malchance de tout ça, c'est que si Émile a fait ce chemin tout seul, en forêt, c'est qu'il ne croit... On est en juillet, hein. On est en fin d'après-midi, un samedi. Il y a quand même des randonneurs en montagne. Il y a des gens qui se promènent. C'est un coin avec plein de sentiers. La randonneuse qui a trouvé son crâne, elle était en promenade. C'est un chemin qu'elle fréquente souvent. Le malheur dans le malheur, si Émile s'est rendu tout seul, c'est qu'il n'ait croisé personne.
Merci beaucoup. Et on sait que le procureur dit que toutes les hypothèses restent à l'étude et les premiers résultats d'analyse du crâne d'Émile donnent quand même l'information clé, c'est celle que le crâne est resté très longtemps à l'air libre. Exactement. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Laurent Valdiguet et Lisa Hadef, bien évidemment. Je m'arrête sur un point, Gilles Rex, sur les chiens, ce qu'on évoquait à l'instant. Pourquoi est-ce que les chiens, si vraiment le petit garçon est allé se promener et s'est perdu sur 25 minutes, un peu plus d'un kilomètre?
Un peu plus d'un kilomètre.
Pourquoi est-ce que les chiens auraient arrêté de suivre sa trace, se seraient arrêtés à la fontaine?
Alors, les maîtres chiens, je ne suis pas un spécialiste hein, des brigades canines, mais même si je m'appelle le Gilles Rex, de toute façon. Mais en fait, il peut y avoir mille problèmes pour des chiens. L'été, avec la chaleur, avec des bruits, des odeurs différentes. Les maîtres chiens nous disent ça, que c'est pas non plus une science exacte. Et ils travaillent avec des chiens qui sont plus ou moins... Et des races de chiens aussi qui sont plus ou moins aptes à suivre certaines
pistes. Mais on avait un comportementaliste canin sur le plateau, que vous citez d'ailleurs dans votre article, je crois, ouais. Laurent Valliguier, qui dit « un chien peut toujours se tromper ». Ça, oui, mais pas trois.
Et
ils étaient 10.
Ils ont été 10 chiens, alors pas tous les mêmes, hein, parce que vous avez des chiens qui suivent la piste, des chiens pisteurs. Ça, ils se sont tous trompés, puisque les chiens pisteurs, ils se sont arrêtés à la fontaine. Donc, si Émile a fait, encore une fois, si Émile a fait ce chemin à pied tout seul, ce qui est quand même vraisemblable, aucun des chiens ne l'a suivi. C'est un loupé des chiens. Et les deuxième catégorie de chiens, c'est les chiens questeurs. C'est les chiens, non pas qui suivent une trace, mais qui vont rechercher un être vivant hein, dans les avalanches, les tremblements de terre, etc. Là aussi, aucun chien questeur n'a trouvé Émile dans la forêt. Dans cette zone qui est grande, parce que c'est vrai qu'il y a cette partie-là au-dessus du village, il y a aussi la partie en amont entre le Haut-Vernay et le Vernay qui a été fouillée. Donc ça fait une grande zone de recherche. Mais c'est vrai que avec le recul, les maîtres chiens s'interrogent qu'aucun chien questeur ne les trouvait. Et puis il y a une troisième catégorie de chiens qui là non plus n'a rien trouvé. C'est les chiens de recherche de cadavres. Si Émile est décédé, s'il est parti tout seul et qu'il est décédé rapidement, ce que pensent les enquêteurs dans ce cas de figure, parce que vous savez que l'hélicoptère diffusait aussi un message de sa maman disant dès le samedi soir, Émile, montre-toi. Donc en réalité, s'il est décédé rapidement dès le samedi soir, les chiens de recherche de cadavres qui sont des chiens qui trouvent en général, surtout quand ils sont dans le bon sens du vent, aucun de ces chiens-là encore n'a trouvé.
Vous aviez une question à poser,
oui,
Olivier Vial.
Est-ce que dans d'autres affaires, autant de chiens mobilisés ont eu un taux d'échec comme ça? Est-ce que ça arrive ou est-ce que finalement, peut-être envisager d'autres explications?
C'est ce qui fait que les maîtres chiens sont tous interloqués. C'est ce qui fait d'ailleurs que les gendarmes sont interloqués. Le procureur a parlé de la chaleur à chaud lors de sa conférence de presse qui avait pu perturber les chiens. Oui, il faisait chaud le samedi 8 juillet, mais le dimanche matin 9 juillet, il faisait moins chaud.
Et de là, empêcher une dizaine de chiens de travailler.
Et les chiens Saint-Hubert, ils suivent des traces pendant 6 jours. Donc le dimanche matin, les conditions, elles étaient optimales pour que des chiens suivent la trace, pistent le petit Émile s'il s'est aventuré tout seul dans la forêt. C'est pour ça qu'il y a une telle énigme sur cette partie-là que la piste criminelle reste ouverte, ou une autre piste dans le village, hein, puisque c'est ce que j'évoque dans cet article de Marianne, il y a une autre piste qui se fait jour dans le village, qui est celle du loup, où le petit Émile aurait été emporté par un loup. Dans ce cas de figure, hein, qui reste hypothétique, mais dans ce cas de figure, il y a des loups solitaires dans le Haut-Vernay, m'a dit le François Balic, le maire. Dans ce cas de figure, aucun des chiens n'aurait suivi la trace.
Le loup n'attaque pas l'homme. Est-ce que la petite taille d'un enfant a pu amener le loup à s'en prendre à un enfant comme ça, il aurait pu s'en prendre à un agneau.
Depuis 1903, il n'y a pas eu d'attaque
exactement,
de loup en France.
Voilà.
Il y a des loups solitaires dans ce secteur. Les spécialistes des loups disent que le mois de juillet est un mois particulièrement sensible puisque les meutes de loups ont des louveteaux à nourrir.
Et que
et que les loups solitaires en fin d'après-midi s'approchent des poubelles. Autrement dit, à cet endroit du village, il y a des lapins, clapelets à lapins et des poubelles. Alors, c'est vrai qu'il faudrait que 1000 lunes soient en mauvaise orbite pour arriver à ça. Mais c'est vrai que Émile, il est tout seul à la fontaine à côté de ses clapiers à lapin. Il est tout seul. Et d'ailleurs, il est tellement tout seul que personne, aucun adulte ne le voit partir. Dans ce cas de figure, les spécialistes des loups n'excluent pas qu'un loup ait pu l'attraper.
Jacques Pradel, vous êtes toujours avec nous. D'abord, sur la faillite des chiens, comment vous l'analysez-vous que les chiens, les Saint-Hubert qui sont spécialisés dans le pistage, s'arrêtent donc à cette fameuse fontaine du village? Ça interpelle quand même.
Oui, moi je partage simplement l'étonnement général. Je partage totalement les questions qui ont été posées à l'instant que beaucoup, beaucoup d'affaires criminelles quand on utilise ces catégories de chiens différentes en fonction de ce qu'on attend d'eux, les chiens pisteurs, les chiens... Même il y a des chiens qui sont spécialisés pour reconnaître une odeur dans une zone et ils ont été utilisés également au Vernet. C'est une énigme, effectivement. On n'a pas de réponse pour l'instant. Je doute que l'analyse de nouveaux ossements permette d'avancer là-dessus. Alors, simplement, voilà, je ne peux que me cantonner à cette attitude-là nous n'avons pas de réponse. On ne peut que se poser des questions. Et je pense qu'il faut se raccrocher maintenant à des éléments qui vont nous donner petit à petit peut-être des petits éléments de réponse. Et c'est pour ça que je voulais aborder, et profitant de la présence de Gilles Rex sur votre plateau, on se focalise là sur les ossements qui sont tout petits aussi, et qui sont ceux d'un très jeune enfant. Donc ça va être, quand je parlais de tamiser la terre, c'est vraiment ce qu'il va falloir faire pour essayer de retrouver des traces. Alors, ce qu'on sait déjà, c'est que les ossements, apparemment, au vu des analyses actuelles, n'ont pas été enterrés. C'est-à-dire, ils sont restés vraisemblablement à l'air libre depuis le décès d'Émile. Mais les vêtements, alors, il reste les semelles des chaussures peuvent s'analyser pour essayer de voir quelle est la nature de la terre qui doit se trouver encore prisonnière des rainures de la semelle. Un vêtement, ça peut transporter des fibres, voire un ADN, si on a de la chance. Bon, qu'en pense Gilles Rex de ce côté-là? Est-ce que vous pensez que l'analyse maintenant des vêtements pourrait ouvrir une piste d'informations supplémentaires?
Alors, je crois que la zone des vêtements, il se trouve à 150 mètres du crâne, mais on pense effectivement que le crâne a été transporté et qu'il est arrivé là d'une manière ou d'une autre, vraisemblablement par des animaux. Mais la zone des vêtements, ils sont éparpillés à 150 mètres, donc des uns sur quelques dizaines de mètres, en fait. Et là, peut-être, selon moi, peut se trouver ce qu'on appelle le point zéro, c'est-à-dire où le corps était dans son entièreté avant d'être décomposé. Appelons par les mots qu'il convient, donc les choses. Et en cas de cette découverte du point zéro, on peut avoir dans le tamisage de la terre autour de ses vêtements, donc dans le tamisage des pupes, on peut retrouver des pupes d'insectes, c'est-à-dire que les insectes viennent pondre, les larves se nourrissent et après elles vont s'enterrer en se transformant en chrysalide, comme la chrysalide pour se transformer en papillon, les larves vont se transformer en chrysalide pour devenir des mouches ou des insectes nécrophages. Et pour se cacher, elles doivent se cacher pour éviter les prédateurs, et elles vont s'enfouir dans la terre. Là, autour des vêtements, à n'en pas douter, il va y avoir des prélèvements de terre de fées et on va découvrir des pupes. Aux gendarmes et à leur département d'entomologie de dater ces pupes, s'ils le peuvent. Ils ont déjà travaillé sur des affaires anciennes comme ceci. Et donc, on saura déjà si c'est bien ici que le corps a été découvert par les insectes. Hein, voilà. Et peut-être qu'on va pouvoir retrouver aussi d'autres ossements dans cette zone-là. Dans les fibres aussi des vêtements, on peut retrouver des pollens. Ce même département d'entomologie de l'IRCGN à des spécialistes dans les pollens, et si le petit Émile a traversé des zones de végétation spécifique, on va retrouver peut-être des pollens dans les fibres de ses vêtements.
Et là, si par exemple, c'est une attaque de loup, dans les vêtements, oui, on devrait le voir, non?
Alors, dans les vêtements, s'il y a une attaque de loup, et effectivement, si les crocs ont pris, il peut y avoir des déchirures, des choses comme ça, hein. Voilà, mais ça, on ne sait pas ce qui a été constaté. En plus, on a quand même une information, une communication de la gendarmerie, à juste titre, en décalage. Si hier, on a appris qu'un deuxième ossement a été retrouvé et appartient au petit, c'est-à-dire qu'il a été trouvé déjà il y a plusieurs jours, le temps de faire les analyses.
Il avait été trouvé mercredi dernier, on l'a su hier.
Bon, voilà, donc c'est ça, ils sont toujours en décalage, et c'est normal, hein, ça c'est l'enquête classique. Si ça se trouve, à l'heure où nous parlons, ils ont déjà tout un tas d'autres informations qu'on apprendra dans les jours qui viennent.
Mais je reprends le terme de Jacques Pradel qui dit « on en est au stade où on est en train de tamiser la terre ». C'est vraiment ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire le degré de minutie de l'enquête à l'heure où on parle.
Absolument. Absolument, c'est
on y va bout par bout.
C'est ça. Hein, c'est de l'archéologie là. Hein. On est dans les zones sont quadrillées. On sait exactement, elles sont numérotées, quadrillées. On sait exactement le travail qui a été accompli dans ce secteur-là. On va passer à un autre. Et ils campent sur les lieux, ils y mangent, ils y dorment, et jusqu'à ce qu'ils aient trouvé quelque chose qui les intéresse, ils vont y rester, croyez-moi bien.
Alors, on apprend que le périmètre est donc toujours ratissé par une centaine de gendarmes, et on apprend en plus qu'une dizaine de légionnaires sont arrivés en renfort. Que peuvent apporter en plus ces légionnaires ?
Oui, ils sont spécialistes des fouilles. C'est presque des archéologues de scènes de guerre, avec normalement des poêles à frire pour rechercher des objets métalliques. Ils sont certainement en train de quadriller, de participer au quadrillage, au travail de fourmi, Julie. Brindille par brindille. C'est exactement l'expression qui convient pour le travail des gendarmes aujourd'hui.
Marion Ménage, la suite, c'est quoi ? On rappelle, il y a 20 enquêteurs qui travaillent à temps plein sur l'affaire du petit Émile 9 mois plus tard. Il peut y avoir encore des nouvelles auditions. On analyse toujours les perquisitions qu'il y a pu avoir ces dernières semaines. Qu'est-ce qui se passe là ? C'est quoi le travail de bureau ?
Alors, le gros du travail de fond a déjà été fait parce que l'enquête dure depuis plusieurs mois. Donc, je pense que tout ce qui est téléphonie, tout ce qui est plaque d'immatriculation, tout ce qui est ça a déjà été épluché et archi-épluché. En revanche, la découverte de ces ossements fait presque redémarrer l'enquête à zéro parce que là, ça veut dire qu'on a une zone, ça veut dire qu'on a des éléments, ça veut dire que l'IRCGN à Pontoise est sur le grill, que tout est épluché. Et là, on a de la matière sur laquelle travailler. On n'est plus sur des hypothèses à partir un peu dans tous les sens, y compris à de l'enlèvement, du départ à l'international ou que sais-je, toutes les hypothèses étaient sur la table au départ. Là, ça a quand même permis déjà de resserrer un certain nombre de choses. Et puis les éléments qu'on trouve maintenant, voire ceux qu'on ne trouve pas, parce que on parle beaucoup de ce qu'on a trouvé, mais en fait, en creux, il y a aussi ce qu'on n'a pas trouvé, ce que peut-être on ne trouvera jamais. Tous ces éléments-là sont exploités actuellement. Et effectivement, je rejoins Laurent, on est sur du travail de fourmi, on est brindille par brindille, parce que là, maintenant, on a une zone. Donc, on arrête de chercher un peu partout, à partir dans tous les sens. C'est peut-être pas le point zéro, mais en tout cas, c'est une zone. On a les découvertes d'ossements, on en a au moins deux à l'heure actuelle. Il y a les découvertes de vêtements. Alors, peut-être que tout n'était pas là initialement, peut-être que tout a bougé, mais quand même, on part pas de 150 kilomètres de là. Donc, on a quand même une zone sur laquelle travailler, et ça veut dire que, au niveau de l'IRCGN, là, pour le coup, ça doit s'activer sur les éléments découverts.
Ségolène Royal, je crois que vous souhaitiez dire un mot.
Oui, moi je voudrais peut-être qu'on manifeste notre solidarité avec la détresse des parents, leur souffrance, parce que c'est vrai que comme ils sont très croyants, c'est à la fois un soulagement parce que cet enfant va pouvoir avoir une sépulture, mais en même temps, ces révélations jour après jour ont quelque chose de terrible. On le ressent tous d'ailleurs autour de cette table, donc ça c'est important, je crois, à dire. Et la seconde chose qui me frappe, c'est ce déploiement des moyens de tous ces services publics. C'est quelque chose quand même d'extraordinaire. Tous ces gendarmes, ces personnels spécialisés. Parce que ça veut dire que la vie d'un enfant, c'est quelque chose de très précieux. Et donc, c'est l'essence même d'une civilisation d'observer ce qui est en train de se passer, ces moyens considérables qui sont consacrés à cette affaire. Et enfin, je pense que si les Français sont très attentifs, regardent ce qui se passe, même si c'est douloureux, c'est parce que tout enfant a échappé à un moment ou à un autre à la vigilance des parents. Et donc, chacun se renvoie vers sa propre histoire et se dit, voilà, il y a ce drame qui est arrivé, qui aurait pu arriver à mon enfant. Et rappelons une fois de plus, c'est vrai, l'extrême vigilance qu'il faut avoir à l'égard de ses enfants, parce que des tout petits, oui.
Merci à vous. Merci beaucoup, Jacques Pradel, d'avoir été des nôtres ce soir. Merci, Gilles Rex. Et merci, Laurent Valiguier et Marion Ménage, pour toutes ces informations. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce témoignage, le témoignage recueilli par nos équipes de la randonneuse qui a retrouvé donc le crâne du petit Émile. Merci beaucoup à tous.